Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle émission de Mai de Résistance, Radio Galère 88.4, Radio Mono Chalon-Champagne, sur un sujet qui intéresse beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens connaissent le fameux groupe Massilia Sound System, que ce soit dans la Marne, là je pense aux gens qui écoutent le 90.6 Radio Mono, ou ceux qui écoutent le 88.4 Radio Galère à Marseille, sur laquelle mon émission Mai de Résistance passe. Mais tout le monde, même si les Marseillais en sont plus proches, tout le monde connaît Massilia Sound System. Et Massilia Sound System fait la promotion d'une culture qui est très intéressante, qui est la culture occitane. Et donc, derrière cette promotion de la culture occitane, il y a toute une revendication qui est très française de reconnaissance d'autres cultures, parce que c'est le sujet de notre émission. La France n'a pas toujours été un pays qui ne parlait qu'une seule langue. Il y a toujours eu des patois. J'ai choisi donc aujourd'hui de faire cette émission avec un invité qui s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre est né à Paris, mais il se sent occitan et il va vous expliquer pourquoi. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour. Alors je suis né en banlieue parisienne exactement, mais mes deux parents étaient d'origine occitane et j'ai été élevé dans ma petite enfance, c'est-à-dire je crois les moments les plus importants dans la vie d'un homme au niveau de l'apprentissage de linguistique. J'ai été élevé donc par ma grand-mère, elle était seule, veuve de guerre, qui était dans l'Aveyron, le nord Aveyron. À l'époque, on disait encore l'Auvergne, bien que ce ne soit pas vraiment l'Auvergne, mais le Rouergue. Et c'est dans cette ambiance-là que j'ai été confronté à l'existence de deux langues, celle que l'on appelait à l'époque le patois, et dont j'ai appris ultérieurement que c'était la langue d'oc ou occitan, et puis le français. Alors, dans ces années, qui sont les années 50-60, d'après-guerre, on avait l'habitude, je dirais malheureusement, de communiquer avec les enfants qui venaient de naître, avec les petits, en français. Un français au demeurant fort dialectalisé, fort contaminé un peu par la langue locale, mais en français. Mais l'ensemble de la société dans le monde rural, ce qui était le cas de ma grand-mère, parler dans le fameux patois en question, donc en occitan. Donc quand on est petit et qu'on a l'oreille un peu attentive, on se rend bien compte qu'il y a deux langues, une langue qui est celle qu'on vous parle et que vous allez parler uniquement avec vos contemporains et puis à l'école, et puis la langue des adultes, la langue de tous les voisins qui va vous rentrer dans l'oreille, que vous avez peut-être pas tout à fait sur la bouche, puisque vous n'avez guère l'occasion de la parler, sauf pour faire rire, parce que les anciens, des fois, nous demandaient si on pouvait répondre en patois, et on répondait parfois maladroitement, puisqu'on ne l'avait pas tout à fait sur la bouche, mais on l'a complètement à l'oreille.
D'accord. Alors, je rappelle que tu es historien, brièvement, rappelle un peu ta biographie. Tu as fait quand même tes études, pas n'importe où, tu as fait tes études au lycée Henri IV à Paris. Ce lycée, c'est un lycée qui est quand même intéressant, c'est un des meilleurs lycées de Paris. Et en plus, tu as donc dû côtoyer des gens qui comptent aujourd'hui dans la vie politique française. Et d'ailleurs, tu fais toi-même de la politique, tu es un élu municipal.
Oui, alors tout ce que tu dis est tout à fait juste, mais ça n'a pas de rapport direct. Ce qui a un rapport direct avec notre sujet, c'est que c'est paradoxalement à Paris, au lycée Henri IV, que j'ai pris conscience de la qualité, de la valeur de ce que l'on appelait donc le patois. Tout simplement parce qu'en classe de 3e, j'ai eu un professeur de lettres classiques, je faisais latin-grec, qui était un spécialiste de la littérature du Moyen-Âge. Et comme il était spécialiste de la littérature du Moyen-Âge, il s'appelait Monsieur Charlot, il n'y a pas de raison de ne pas le citer, il a écrit des bouquins notamment sur les mystères religieux du Moyen-Âge. Monsieur Charlot a demandé en début d'année scolaire s'il y avait des élèves originaires de la moitié sud de la France qui étaient capables de comprendre le patois de leur région. Alors nous étions, je me rappelle, 4 ou 5, il y en avait deux camarades de l'Hérault, il y avait 2 camarades de Limousin et puis un autre camarade aveyronnais, donc 2 aveyronnais. Ça faisait quand même 6 méridionaux dans une classe de 30. C'était pas mal. Et il nous avait demandé ça parce qu'il voulait nous faire comprendre que les textes des troubadours que nous allions, sinon étudier, du moins survoler, nous seraient certainement beaucoup plus accessibles qu'aux Parisiens de souche, ce qui était la réalité. Et donc c'est à ce moment-là que ça a fait un déclic dans ma tête en disant, mais tiens, je savais même pas que ce que ma grand-mère appelait, et ma mère appelait, et mon grand-père Limousin, lui, appelait le patois, était une langue qui avait été écrite depuis le Moyen-Âge.
D'accord. Et donc c'est là que tu as... Mais alors, est-ce qu'il ne vous a pas parlé que de l'Occitan? Il vous a parlé des autres patois, des autres cultures? Tu peux en parler un petit peu? Il y en a d'autres qui t'intéressent?
Alors, bien entendu, ce professeur Charlot, spécialiste du Moyen-Âge, nous a bien fait remarquer que à la naissance de la littérature hexagonale, je ne dis pas française, je dis hexagonale volontairement, il y avait plusieurs expressions écrites. Dans ce qui va devenir le français, la langue d'Oïl, et non pas d'Oïl comme le disent malheureusement les gens, dans la langue d'Oïl, les premiers textes étaient strictement dialectaux, ils étaient normands, anglo-normands du côté du royaume d'Angleterre où on parlait une variété de langue d'Oïl d'origine normande. Ils étaient surtout picards, ils étaient champenois, puisqu'il y a ici, puisque la Rhine radio de Champagne, ils étaient lorrains éventuellement. Bref, ils étaient strictement dialectaux. Et que par contre, le miracle était que dans la moitié sud de la France, qui pourtant était très divisée politiquement, entre, je dirais, 3 ou 4 grands domaines, le domaine d'Aquitaine qui va passer au Plantagenet, donc à l'Angleterre entre guillemets, c'est pas du tout anglais en fait, mais peu importe, le comté de Toulouse qui va être la première victime de l'invasion capétienne, et puis le pouvoir d'Aragon qui s'étend également sur une grande partie de la Provence. Et donc malgré cette division politique extrême, il y a eu apparition d'une langue quasiment commune, écrite, apparemment issue d'un scriptorium, donc issus donc des scribes religieux de l'abbaye Saint-Martial de Limoges qui ont donc imposé une façon d'écrire unique pour tous les dialectes du sud de la France, parce que bien sûr l'état naturel de toute langue c'est l'émiettement, c'est le fait d'être divisé en multiples dialectes et de multiples... Alors patois, le mot patois est très gênant parce que c'est un mot d'abord typiquement français qui est intraduisible dans les autres langues pratiquement, où on dit toujours dialecte, hein, et qui est un mot qui a une connotation négative, et donc c'est un mot qu'il faudrait bannir. Alors on pourrait parler à la place de parler, les parler se regroupant en sous-dialectes, même regroupés en dialectes, voilà, ou en Donc, oui, ce professeur nous a bien montré que la France médiévale était linguistiquement une France qui était divisée, avec une partie sud qui avait une langue écrite commune, environ, et qui commence à écrire des textes, à la fois des textes de création littéraire, des poèmes ou des chansons de gestes, et des textes administratifs environ entre 50 et 75 ans avant la moitié nord de la France. C'est-à-dire que la culture écrite occitane a précédé la culture écrite de Languedoil.
Si je comprends bien, il y avait déjà la langue, ce qu'on appelle la langue d'oc aujourd'hui, cette langue fameuse langue occitane, c'est déjà une acculturation avant la culturation actuelle, qui est d'un langage uniforme pour tout le territoire français. Puisqu'il y a eu une acculturation consistant déjà à unifier toutes les façons de parler de l'époque, puisque ce travail qu'ont fait les clercs de Poitiers, non, de Limoges, pardon, c'est un travail de, finalement, où il y a une forme d'acculturation, si je veux parler en termes sociologiques, voire anthropologiques, pour dire qu'on a dû forcément abandonner certains parlers au profit d'une unification de tous ces parlers du Sud, et aussi bien en langage oral qu'en langage écrit. N'est-ce pas ? Oui ou non ?
Alors, non. En langage oral, certainement pas. Parce que, de toute façon, ces écrits ne peuvent être lus que par une infime minorité de la population, quelques nobles et puis les clercs, en gros. Et ce langage unifié qui sert essentiellement aux chansons des troubadours, c'est un petit peu comme une sorte d'anglais de nos jours. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement la langue que parlent ceux qui composent. Par exemple, vous avez le roi Richard Cœur de Lion, un roi d'Angleterre entre guillemets, qui est d'abord duc d'Aquitaine, qui a écrit des poèmes dans cette langue unifiée, on dit une koiné en linguistique, dans cette koiné occitane. Ce n'est probablement pas le parler qu'il utilisait avec sa mère Aliénor d'Aquitaine, parce que cette koiné, en fait, elle est quand même à base d'un dialecte, c'est-à-dire à base de Limousin, puisque c'est apparemment à Saint-Martial de Limoges que l'on a écrit les premiers textes en occitan, et ce dès les années 1020. Bon, mais on n'empêchait absolument pas les Provençaux de continuer de parler leur dialecte, puisque de toute façon cette langue unifiée était une langue de cour, était une langue de culture qui était à la mode, et dont la mode a largement dépassé les frontières de l'Hexagone actuel, puisqu'il y a eu des troubadours italiens et en Espagne, enfin du moins en Royaume d'Aragon, donc en Catalogne également, et qu'en plus, quand bien même on n'utilisa pas cette langue propre, on va la traduire, la copier dans d'autres langues, dans d'autres cours, notamment en Allemagne et en Galice, en Espagne donc.
Ah oui, d'accord. Donc ça déborde un peu sur l'Espagne.
Alors, sur l'Espagne, il y a deux phénomènes. D'abord, c'est que on pense qu'à l'origine, il n'y a pratiquement pas de rupture entre l'occitan languedocien et ce qui allait devenir le catalan. C'est quasiment la même langue, même au niveau oral, ce qui explique d'ailleurs les liens puissants entre le royaume d'Aragon et puis ce qui est aujourd'hui la région Occitanie, hein, puisque le royaume d'Aragon contrôlera longtemps la région de Montpellier, la vicomté de Millau, donc plusieurs, le Gévaudan, donc la Lozère actuelle, c'est-à-dire plusieurs terres de la région Occitanie actuelle.
D'accord, ça allait jusqu'au Gévaudan. Justement, on va parler de la géographie tout à l'heure. Parce que, enfin, moi, il y a un pays qui me fascine beaucoup, et j'ai J'ai un peu passé ce moment, je suivais beaucoup les activités d'une association qui s'appelle Culture du Monde, je ne sais plus, c'est une association qui est assez importante et assez influente, qui est dirigée entre autres par une femme politique qui d'ailleurs s'était présentée aux élections présidentielles. Elle avait été d'ailleurs la secrétaire de Johnny Hallyday, comment elle s'appelait déjà ? Madame Jolie. Tu connais ? Et donc, c'est elle qui était à la tête de cette association. C'est une association qui prônait très fortement la reconnaissance des cultures locales. Et notamment le fait que chacun, ce qu'on appelle, enfin moi j'appelle ça des pays, entre guillemets, avec un petit P, hein, c'est pas au sens de État, mais au sens de territoire ayant une logique culturelle. Oui, obéissant à une logique qui relève des coutumes du passé et de la culture et du passé, parce que effectivement, je pense que la France a été le territoire français et les populations ont été acculturées par les politiques qui ont été menées, notamment sous Napoléon Ier, de réunification du territoire avec une seule langue. Et je pense qu'il y a eu une acculturation qui est très profonde. Une acculturation, ça crée toujours de l'anomie. C'est pour ça, c'est comme ça que j'explique d'ailleurs qu'en France ça se passe pas bien, parce que on est passé à côté. Quand quelque chose est commencé et est vivant, si on le mutile ou si on le fait disparaître, il ne disparaît vraiment jamais vraiment. Il finit toujours par ressurgir. Chose, par exemple, on a bien vu ce que ça donnait avec le glacis soviétique pendant la guerre froide, et à quel point nos États d'Europe de l'Est se sont réveillés avec eux, leur culture et leurs pratiques religieuses, et à quel point aujourd'hui ça a pu poser des problèmes avec un retour de certains nationalismes dans certains États des pays d'Europe de l'Est. Je ne dis pas qu'on va en revenir à la configuration que pouvait prendre l'Europe de l'Est en 1920 à la conférence de la paix à Paris, où ils étaient tellement nombreux, et où dans certains pays d'Europe de l'Est, il y avait énormément d'ethnies qui étaient représentées à la conférence de Paris. C'était très difficile de les faire s'entendre, notamment sur la question des frontières. Et donc, je ne dis pas qu'on va en revenir à cette époque-là, mais quand même, il y a de tout ça dans le conflit qui a eu lieu en Yougoslavie, et il y a de tout ça dans le retour des nationalismes dans certains pays d'Europe de l'Est. Et c'est pour ça que je me dis qu'en France, on a vécu la même chose à l'échelle d'un pays, au niveau régional. Il y a acculturation, et donc cette association dont je parle, que Madame Jolie... je crois qu'elle a été présidente pendant longtemps, je sais pas si elle l'est encore aujourd'hui, mais enfin, elle est très présente dans le monde occitan, parce que le monde occitan, c'est le plus revendicatif. Et je vais te parler de la Catalogne maintenant, parce que tout à l'heure tu as parlé de l'Espagne. Quel est le rapport entre la Catalogne et l'Occitanie ? Est-ce que la Catalogne, le pays catalan, ce que j'appelle le pays catalan, pour moi, ce n'est pas un pays imaginaire, c'est un pays qui a existé avant Louis XIV. Puisque Louis XIV, quand il s'est marié, il a fermé définitivement la porte sur la Catalogne espagnole. Symboliquement, il fait murer la porte de l'église de Saint-Jean-de-Luz où il a épousé l'infante Marie-Thérèse, et en disant, c'est très symbolique parce qu'il dit on ferme la porte là-dessus. Il y a eu le traité des Pyrénées suite à une guerre en franco-espagnole où l'Espagne a dû accepter que la France annexe un territoire purement catalan situé en Espagne. Donc ça nous donne une actuelle Catalogne française où les gens ne sont pas contents. J'avais entendu une anecdote qui disait que 200 ans après, plus de 100 ans après, lors de la Révolution française, il y a encore des Catalans espagnols qui profitent des débordements qui ont lieu pendant la Révolution française pour tenter de récupérer la partie espagnole de la Catalogne française, issue du traité des Pyrénées. Et aujourd'hui, c'est pas parti. Quand on voit les revendications d'une association telle que Culture du Monde, et quand on voit des groupes comme Massilia Sound System. Alors voilà, c'est ça. Je voudrais qu'on discute de ça. Et surtout, d'abord, est-ce que tu peux répondre à ma question sur l'enchevêtrement entre la Catalogne française actuelle, qui normalement par extension devrait être une Catalogne unifiée au-delà des frontières entre la Catalogne espagnole et la Catalogne française, si on veut guérir nos cicatrices historiques et pour que les gens, pour que ces cultures-là puissent revivre, et l'actuelle Occitanie. Ça, c'est quelque chose que je ne suis jamais arrivée à résoudre.
Je répondrai pas tout de suite. Je répondrai ultérieurement. D'abord, je reviens au tout début de ton propos. Il est clair que l'État français a un problème avec le concept de différence. C'est-à-dire que l'État français est centraliste, je dirais presque par nature, qu'il soit à l'origine royaliste, enfin capétien surtout, ou qu'il soit républicain par la suite. Avec, je dirais, l'apogée du centralisme qui est effectivement sous Napoléon. Napoléon qui est quelqu'un qui est d'abord un traître à sa propre patrie, la Corse, et qui ensuite a appliqué à la France un système dont nous souffrons encore, qui est un système d'écrasement total des libertés locales, d'écrasement total des cultures locales, même si concrètement à l'époque il était incapable au niveau linguistique d'appliquer ce programme. Mais ce programme était en germe dans sa philosophie et dans les idées politiques qu'il développait. Alors au passage, je voulais faire un sort au terme de jacobinisme qui est souvent utilisé pour parler de ce centralisme. En réalité, les jacobins n'ont été centralistes que sous la contrainte et à titre provisoire face aux dangers intérieurs et extérieur qui menaçait le pouvoir nouveau, le pouvoir de la Révolution, à la fois à l'intérieur et aux frontières. Ils n'étaient pas non plus fédéralistes, bien entendu, puisqu'ils traitaient de fédéralistes leurs ennemis intérieurs girondins. Ils étaient communalistes, c'est-à-dire qu'en fait, la Constitution qui a été suspendue donnait des pouvoirs énormes à la cellule de base de la vie démocratique, la commune. Et c'est pas pour rien que par la suite, les mouvements révolutionnaires tout au long du XIXe siècle s'institueront sous le terme de commune et que les premiers pouvoirs socialistes qui s'installeront en Europe de l'Ouest, notamment dans les pays nordiques, feront de la commune la base de la vie démocratique. C'est particulièrement le cas chez les sociaux-démocrates danois. Voilà, alors ceci étant, donc je pense qu'il y a un gros problème de l'État français pour reconnaître les différences. Et on le vit tous les jours, parce que, je veux dire, de la même façon que le pouvoir français a refusé de reconnaître les différences intérieures, je dirais, attachées au sol, c'est-à-dire les cultures dites régionales, de la même façon, il est aujourd'hui incapable d'accepter les cultures attachées à l'origine, c'est-à-dire les cultures des populations immigrées ou d'origine immigrée à 2, 3, 4 générations. Et que vous avez des candidats qui réclament l'assimilation, ce qui veut dire en fait se suicider culturellement, c'est-à-dire nier sa propre identité, s'aliéner au sens propre du terme. Et il faut voir que le pouvoir d'aliénation du centralisme français est quelque chose de terrible. Je vais en donner un exemple frappant d'une personnalité que tout le monde connaît, qui est par ailleurs quelqu'un d'absolument estimable, que j'estime, dont l'œuvre est remarquable, et qui par contre fait un blocage total sur le problème de l'identité linguistique. C'est tout simplement Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, sociologue qui va éplucher dans les moindres détails tous les systèmes de reproduction de l'ordre bourgeois et tous les systèmes de domination de la bourgeoisie sur la vie des Français, qui va par ailleurs, alors qu'il est lui-même béarnais occitanophone, non seulement nier totalement l'intérêt de sa propre langue, de sa propre culture, mais va même jusqu'à dire dans une radio que les étudiants qui se présenteraient en thèse avec un accent méridional ne seraient pas pris au sérieux. On voit là le comble de l'aliénation chez un intellectuel qui, par ailleurs, est un spécialiste des oppressions. Il n'a pas pu voir l'oppression sociolinguistique dont il est lui-même victime.
D'accord. Oui, justement, parce que c'est très raciste, c'est une forme de racisme. Quand tu disais tout à l'heure, je suis un étranger de l'intérieur, on en revient, on dirait une complainte d'immigré qui chante son pays natal et qui est nostalgique et puis qui, par ailleurs, vit le racisme sur le territoire où il est immigré. C'est un peu ça, est-ce que... Non ?
Alors, oui, c'est exactement ça. Et la preuve que c'est ça, c'est que le mouvement occitan actuel, qui malheureusement souffre de faiblesse parce que la langue est effectivement moribonde, est un mouvement qui est actuellement est très proche des mouvements des communautés immigrées, et notamment de la communauté maghrébine. C'est pas pour rien que Massilia Sound System ou les Fabulous Troubadours, qui parle parfois en occitan, mais qui intègre aussi pour les Fabulous le portugais, qui intègre l'arabe et le berbère, le kabyle pour les massilia. Je veux dire, nous sommes des immigrés de l'intérieur, effectivement. Alors effectivement, c'est des immigrés de longue date, mais je veux dire, il y a une forme d'oppression qui est similaire, qui est l'oppression faite par l'assimilationnisme français, dont Monsieur Zemmour, lui-même grand aliéné en tant que juif maghrébin, lui-même super aliéné, se fait aujourd'hui le chantre. C'est un super aliéné, cet individu.
Oui. Et justement, quand tu parlais d'un rapprochement entre les opprimés par rapport à leurs caractéristiques sociolinguistiques du territoire français et les opprimés issus de l'immigration, en citant l'exemple de l'Afrique du Nord, je voulais justement dire que dans cette fameuse association Culture du Monde, il y avait, dirigée par Eva Joly, il y avait, dont faisait du moins partie des membres importants Eva Joly, il y avait entre autres la CMA, le Congrès mondial Amazigh, qui était représenté pour représenter la minorité linguistique berbérophone d'Afrique du Nord, tout pays confondu. Et donc c'est ce que tu dis est vrai. Mais c'est vrai que pour Pierre Bourdieu, qui se voulait quand même le représentant d'une France humaniste et ouverte, je ne veux pas dire multiculturelle parce que j'aime pas du tout le terme, qui est profondément galvaudé et qui fait penser, qui se voudrait, si on suivait l'interprétation de certains, faire de la République française un amoncellement de cultures différentes entassées les unes sur les autres. Non, mais quand même, Pierre Bourdieu est représentant de cette France-là. Pourquoi cette dichotomie? Pourquoi cette fracture?
Non, alors, je pense que Pierre Bourdieu a, et je répète le mot, il est aliéné. Aliéné, c'est-à-dire quelqu'un qui se croit autre que ce qu'il est. Et dans le domaine sociolinguistique, qui n'est pas son domaine visiblement, il n'a pas réfléchi suffisamment. Il n'a pas réfléchi suffisamment. Et alors qu'il a, dans plein d'autres domaines de la sociologie, il a démontré la domination à l'œuvre, il a refusé volontairement de l'avoir à l'œuvre dans le domaine linguistique et surtout de l'avoir sur lui-même. Parce que lui-même, je répète, quand on lit les interviews de Bourdieu parlant de sa famille, de son enfance, il a vécu sa jeunesse dans un milieu occitanophone, béarnais. Et ensuite, il en fait un rejet absolument invraisemblable. Il n'est pas le seul. Dans l'histoire, on retrouve plein d'Occitans aliénés, c'est-à-dire des gens qui rejettent. Ceci étant, vous avez à l'inverse des gens qui sont, tout en étant très bien intégrés dans la culture française, sont des gens qui reconnaissent leur culture et qui la partagent. L'académicien André Chanson, par exemple.
On va passer une petite musique et on continuera après. On partira justement sur l'explication sur le pays catalan que je l'avais posé une question tout à l'heure. Alors, j'oublie jamais. On va passer un groupe de musique que tu aimes beaucoup qui s'appelle La Malcoiffée. C'est que des femmes. Elles chantent exceptionnellement bien. C'est très beau ce qu'elles font. Et la chanson qu'on va passer, c'est une chanson... qui s'appelle La Chambre Ouverte, qui se dit comment, s'il te plaît, Jean-Pierre, comment... Attends. Attends, je te laisse le dire. En parler occitan.
La Cambra Alondrado.
La Chambre Ouverte.
La cambra es alandado, la cambra es alandado, un feno que se despuglio, un feno que se despuglio. La cambra es alandado, la cambra es alandado, un feno que se despuglio, un feno que se despuglio. La cambra es alandado, la cambra es alandado, un feno que se despuglio, un feno que se despuglio. Daba lumira al del armari, daba lumira al del armari, daba lumira. La cambra es alandado, y no fino que se despuglio, y no fino que se despuglio. La cambra es alandado, la cambra es alandado, y no fino que se despuglio, y no fino que se despuglio. Se truba caro bello. Y no fino que se despuglio, y no fino que se despuglio. La cambra es alandado, la cambra es alandado, y no fino que se despuglio, y no fino que se despuglio. Inga, badalio, badalio, ba, inga, badalio, badalio, ba, inga, badalio, badalio, ba, inga, badalio, badalio, ba, inga, badalio. La cambra es alandado, la cambra es alandado, y no fino que se despuglio, y no fino que se despuglio. La cambra es alandado, la cambra es alandado, y no fino que se despuglio, y no fino que se despuglio. La influz de liri muntunaras de la finestra, de la finestra. La influz de liri muntunaras de la finestra, de la finestra. Muntunaras de la finestra, de la finestra. Sì, esclavun de rire, sì, esclavun de rire. La cambra es andado y no fine que se despuglio. La cambra es andado y no fine que se despuglio. La cambra es andado y no fine que se despuglio. La cambra es andado y no fine que se despuglio. Daba lumina al del armari, lumina al del armari. Daba lumina al del armari, lumina al del armari. La cambra es andado y no fine que se despuglio.
Voilà, donc c'était la Cambra Alambrada. Je prononce très mal, tu me l'as dit tout à l'heure, je parle très mal occitan. Donc tu disais aussi en parler languedocien, c'est un synonyme, on dit parler languedocien, on dit parler occitan, on dit aussi...
Alors non, l'ensemble des parlers, c'est la langue occitane, ça forme une langue. Alors je dis parler languedocien parce qu'il faut géographiquement distinguer, en gros on distingue 5 ou 6 dialectes ou parlers, donc le languedocien qui correspond à peu près à la région Occitanie actuelle, qui déborde un peu sur l'Aquitaine, le gascon au sud de la Garonne, le limousin qui prend le limousin mais aussi une grosse partie du Périgord, l'auvergnat qui comme son nom l'indique, m'indique, est en Auvergne, mais aussi en Velay et Gévaudan. Et enfin, le Vivaro alpin qui concerne l'Ardèche et la partie sud du Dauphiné, la partie nord de la Provence. Et enfin, bien sûr, le Provençal qui concerne tout le restant. Alors, je vais essayer de répondre très rapidement parce que ça demanderait des explications plus longues sur l'histoire du catalan. Alors, je pense, tout le monde sait qu'au Moyen-Âge, c'est la distinction entre catalan et occitan du sud, donc languedocien, est plus faible que finalement celle qui existe à l'époque entre le languedocien au niveau linguistique et le limousin qui est à la base de la langue écrite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, le catalan va se distinguer de l'occitan et va être écrit avec une forme graphique un peu différente. Après, il y a les événements, les péripéties historiques qui sont multiples, et puis on arrive au traité des Pyrénées où le royaume de France établit une frontière qui est terriblement artificielle. Elle est tellement artificielle que non seulement nous récupérons, enfin nous, l'État français, le Royaume de France plutôt, récupère une partie de la Catalogne, ce qu'on appelle le Roussillon, ou plutôt la Catalogne Nord, mais à l'inverse, cède à l'Espagne les sources de la Garonne qui sont de langue occitane. Et pour l'anecdote, il faut savoir que le seul endroit sur Terre où l'occitan est enseigné dès l'école maternelle et où tous les élèves apprennent cette langue et sont encore capables de la parler, concurremment avec le catalan et l'espagnol, donc ils sont trilingues, c'est le tout petit Val d'Aran avec ses 10 ou 15 000 habitants, c'est-à-dire la région des Pyrénées au bord des à côté des sources de la Garonne. C'est une des curiosités donc du traité des Pyrénées. Alors, quant à la revendication catalane par rapport à la nôtre, elle est un peu différente dans la mesure où la revendication catalane qui a toujours existé à la suite de l'effondrement du royaume d'Aragon et du mariage avec la reine de Castille, elle a été prise en charge essentiellement par la classe bourgeoise. Donc, c'est une revendication qui finalement part d'en haut. Et à l'inverse, les langues régionales françaises, non seulement sont des langues minorisées en termes territoriaux, elles sont minoritaires sur leur territoire, mais c'est surtout des langues minorisées socialement, mais avec aussi tout le poids et toute la valeur que peut avoir cette situation de minorité dans le cadre des luttes. Il ne faut pas oublier que Marseille, qui était un grand foyer de lutte sociale tout au long du XIXe siècle, n'a cessé d'avoir une littérature ouvriériste, ouvrière, revendicative, en langue provençale. Il ne faut pas oublier que les grandes grèves des Cazevilles du 19e siècle jusqu'à celle de 1962, la fermeture des mines, les revendications sont faites et les chansons sont faites en occitan. On voit très bien que l'identité sociale pour nos langues minorisées en France, l'identité sociale se conjugue avec l'identité historico-régionale. Alors, et donc, ces langues, ce sont aussi des langues prolétaires. Elles sont d'ailleurs prises en charge, bien sûr, par des intellectuels, mais pour la plupart des intellectuels issus du monde prolétaire, beaucoup de fils de paysans. Voilà.
Justement, c'est par exemple la commune de Marseille, c'était une commune occitane presque. On est d'accord, ce qui veut dire que, enfin, moi, je développe la théorie selon laquelle l'idée, selon laquelle, enfin, c'est mon idée personnelle, hein, la République n'est encore qu'une utopie, elle n'existera pas avant que l'État français ait reconnu la commune et ait reconnu que l'essence même de la nation était justement dans la commune et dans sa perpétuation, qui a été certes camouflée, qu'on a empêché de s'exprimer, etc., au fil des siècles qui ont suivi la commune elle-même. Et parce qu'il y a eu ce génocide qui a été commis par Thiers sur les communards, mais après il y a eu un autre génocide, un génocide culturel qui a suivi, qui fait qu'aujourd'hui, l'État français ne se calque pas sur la société française, et on expliquera comme ça les révoltes, les manifestations des gilets jaunes. qui est, d'ailleurs je le dis, hein, il y aurait une véritable crise sociale s'il n'y avait pas eu le Covid. Le Covid, finalement, ça a retardé les choses. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est très important de reconnaître tout ça. N'empêche que la commune de Marseille, c'est une commune une commune j'allais dire catalane, je me trompe, qui est occitane, qui est provençale. Et ça veut bien dire que à chaque fois, il y a bien un point commun qui unit tous les territoires de la République française avec les populations qui vivent dessus, qui est la volonté qu'il y ait plus de participation dans l'entreprise, qu'il y ait plus de partage de valeur ajoutée, etc., et que le peuple puisse ait plus de démocratie. Mais en même temps, de trouver autre chose que la domination d'une classe sur l'autre. Mais en même temps, là, attention, là, je parle en termes marxistes, alors qu'on normalement on devrait aujourd'hui dépasser tout ça. Mais y a un point commun et à chaque fois il y a un point de divergence. C'est-à-dire que la France est riche parce qu'elle est une et multiple. Il y a un point commun qui unit. La nation est là, mais en latence. Parce qu'elle est divisée, parce qu'on ne reconnaît pas ce qui différencie. On est d'accord.
Oui, alors il y a énormément de choses dans ce que tu viens de dire. Ça va être très très difficile de répondre brièvement. Alors bon, sur la commune de Marseille, il y a eu aussi une commune à Narbonne où effectivement un certain nombre de slogans sont dans la langue locale. Parce que la langue locale, elle ressurgit. On l'a vu la dernière fois, je dirais, c'est pour le Larzac. Hein, elle ressurgit dans la lutte contre le pouvoir en place, ça c'est clair. Quelle que soit la langue locale, par exemple les ouvriers du bassin stéphanois s'expriment en gaga, comme on dit, c'est-à-dire en franco-provençal, lors des grandes grèves de la fin du 19e siècle. Bon, il en est de même du guignol lyonnais. Le guignol lyonnais, à l'origine, il est en dialecte local et il a une portée révolutionnaire. Et c'est pareil à Amiens, où la Fleur, qui est un véritable anarchiste, s'exprime en picard. Donc c'est bien l'utilisation de la langue locale par le prolétariat qui se reconnaît dans cette langue. Ça, c'est le premier point. Alors, le terme de commune, comme je l'avais expliqué, le terme de commune, c'est indirectement une référence à la constitution jamais appliquée de la Convention, qui a dû être suspendue pour cause de salut public, de nécessité de salut public, qui était effectivement une constitution très décentralisée, très communaliste. Voilà. Alors je sais plus, parce qu'il y avait tellement de sujets que je sais plus quelles étaient les autres évocations que tu faisais. Ah oui, si, le problème de l'État incomplet, de la République incomplète. Mais c'est le grand thème de Jaurès, grand défenseur de l'Occitan au passage. Le grand thème de Jaurès qui pour moi est le plus grand penseur philosophe de gauche, exprime bien que la République française ne sera république que le jour où le socialisme sera établi, y compris établi dans le domaine culturel. Et il est très intéressant de voir comment Jaurès, qui part d'un parti de centre-gauche bourgeois, qui est un ami de Jules Ferry, qui est un propagandiste de l'éducation, va s'éloigner de Jules Ferry sur deux questions, la question scolaire et la question sociale. Et la question scolaire n'est pas la moins importante, parce que l'école de Jules Ferry, très vite, il se rend compte que c'est une école militariste, que c'est une école qui diffuse des valeurs bourgeoises, notamment la propriété, l'individualisme, la lutte de chacun contre chacun, revancharde, nationaliste, et bien sûr, qui nie toutes les cultures prolétaires. Je dis même pas régionales, je dis toutes les cultures prolétaires. Et Jaurès va s'éloigner aussi sur la question sociale, bien sûr, mais sur la question scolaire. Il y a plusieurs textes de Jaurès, plusieurs articles dans La Dépêche qui montrent que Jaurès a été extrêmement sévère vis-à-vis de l'école de Jules Ferry, pour laquelle il avait ardemment combattu à l'origine.
D'accord. Alors, très rapidement, et aujourd'hui, alors non, je voudrais quand même parler de quelque chose. Est-ce qu'on peut parler de Frédéric Mistral rapidement? Il nous rapproche de la Roumanie.
Alors, effectivement, le problème de Mistral est un problème compliqué parce que le Mistral a été déporté tout au long de sa vie vers des options politiques de droite dure, hein, de droite royaliste, notamment sous l'influence du jeune Maurras, hein, c'est pas vraiment reluisant. À l'origine, Maurras, dans sa jeunesse, en 48, il est républicain, il est favorable à la République, et petit à petit, il va s'éloigner de la République parce que cette République ne le satisfait pas. C'est-à-dire que il est quand même un des premiers à voir que l'école de Jules Ferry va porter un coup quasiment pas mortel, mais un grave coup aux langues régionales et notamment à la sienne. C'est sa fameuse expression lorsqu'il va recevoir le prix Nobel de littérature. D'ailleurs, prix Nobel qui lui a été refusé une première fois sur intervention du gouvernement français. Et prix Nobel qu'il sera obligé de partager, ce qui est rarissime, avec un autre écrivain lorsqu'il l'obtiendra, sur intervention également du gouvernement français, qui ne souhaitait pas du tout voir un écrivain qui n'écrit pas en français, mais qui est français de nationalité, être couronné. Donc cette phrase dit « Messieurs, aujourd'hui même où vous me donnez le plus grand prix de littérature du monde, la langue dans laquelle j'ai mérité, dans lequel j'ai écrit, pardon, les ouvrages qui ont mérité ce prix, cette langue est interdite à l'école de mon village. » On ne peut pas dire plus clairement la pensée de Mistral. Et donc, Mistral ensuite va être récupéré par notamment les royalistes, sous la fausse vérité que, à l'époque des rois, les cultures régionales auraient été mieux traitées. Ce qui est largement faux, parce que le centralisme est à l'œuvre depuis très longtemps, même si effectivement il y a eu une petite période de pause, c'est sous Henri IV, puisque lui-même était d'abord roi de Navarre et que la Navarre avait comme langue officielle une variété d'occitan, le béarnais gascon, enfin le gascon béarnais plutôt, et que donc là il y avait eu un coup d'arrêt. Mais on sait que tout le monde connaît le traité de Villers-Cotterêts qui impose le français, sachant que c'est François Ier qui l'institue, qu'il avait été préparé auparavant par son prédécesseur Louis XII, mais que le texte de Louis XII était strictement réservé à l'interdiction du latin et qu'il disait qu'on devait écrire dans les idiomes natifs. Les idiomes natifs ne voulaient pas dire un français unique, hein. Ça pouvait être aussi bien l'occitan ou la variété picarde du français, etc. François Ier accentue donc l'usage, même si encore une fois c'est plutôt le latin qui est visé que les langues régionales, mais indirectement les langues régionales le seront. C'est la même chose pour l'adoption de façon un peu bizarre de l'article 2 de la Constitution dans les années 2000, qui fait du français la langue de la République, qui au départ était fait, cet article est fait pour lutter contre les langues extérieures et notamment l'anglo-américain. Il suffit de regarder Internet ou de regarder les affiches de nos magasins pour voir combien c'est efficace, mais qui en fait s'est complètement retourné contre les langues régionales et les langues d'immigration, hein, parce que chaque fois que l'on veut faire un petit pas décisif dans la reconnaissance de ces langues, par exemple lorsque l'Assemblée de Corse demande la co-officialité du Corse, eh bien on va nous sortir l'article 2. Donc je veux dire, cet article qui était fait contre l'anglo-américain se retourne en réalité contre les langues régionales.
D'accord, merci Jean-Pierre. Effectivement, Frédéric Mistral a quand même été accusé d'être raciste, notamment sur la question du sémite. C'est une blessure française qu'on a aussi avec Louis-Ferdinand Céline, dont on a retrouvé des textes inédits il n'y a pas très longtemps. Ce sont des hommes quand même illustres, Louis-Ferdinand Céline. c'est pas n'importe qui comme écrivain. Frédéric Mistral a joué un rôle important en matière politique d'ouverture de la, sur l'Europe de l'Est avec la Roumanie. Il y avait un jumelage, tout ça on le doit aussi à Frédéric Mistral. Comment traiter le cas de ces personnes qui ont contribué entre autres à construire la République d'aujourd'hui sans se dénaturer et renier notre exigence de français qui nous voulons ouvert et responsable par rapport à la question des juifs et par rapport à la question aussi d'autres communautés qui ont été victimes d'ostracisme sous la Deuxième Guerre mondiale. Je pense à la communauté homosexuelle, mais aussi aux handicapés.
Oui, alors, effectivement.
Et par rapport aux Roms, qui aujourd'hui encore ne sont pas toujours bien traités.
Alors, bon, effectivement, alors Mistral antisémite, ça, je suis désolé, on ne trouve pas de texte antisémite de Mistral. On trouve effectivement dans son entourage des gens qui sont antisémites, notamment bien entendu la famille Daudet, hein, ça c'est sûr. Mais lui-même n'a pas écrit d'acte antisémite. Il en a d'autant moins écrit qu'il a été une des personnes qui, en tant que grand spécialiste de la culture provençale, a valorisé et a révélé au grand public l'existence du judéo-provençal, qui a joué un rôle très important dans le Comtat venaissin, et il a contribué à faire rééditer des œuvres écrites en judéo-provençal. Il y avait pas mal de théâtre. Hein, et il y a dans le Félibrige, c'est-à-dire l'organisation créée par Frédéric Mistral, il y a quelques juifs du Comtat venaissin qui ont écrit en provençal et en judéo-provençal. Donc ça, sur ce point-là, je conteste. Par contre, effectivement, il a toujours dit que qu'il était considéré, il a été un grand ami du premier président roumain, il a été effectivement un des promoteurs de l'indépendance roumaine en termes culturels, et pareil, il a été un des grands soutiens de la revendication catalane. La preuve, c'est que l'hymne du Félibrige, l'hymne provençal, la Coupo Santo, c'est la Coupe Sainte. Il s'agit d'une coupe qui a été donnée par les Catalans quand ils ont reçu à Barcelone Frédéric Mistral. Donc effectivement, c'est une phrase que j'aime dire, c'est que Frédéric Mistral est un poète orphelin de son peuple. C'est-à-dire que sa revendication, elle est prise en charge, elle est comprise par d'autres peuples qui se sentent opprimés, notamment les Roumains, qui sont des peuples frères, les Roumains et les Catalans, deux peuples latins frères, et elle est effectivement ignorée de la bourgeoisie locale, provençale, qui dit grosso modo, Frédéric Mistral, quel grand poète, mais quel dommage qu'il écrive dans la langue de nos domestiques. Et je dirais que c'est un problème de classe, parce que c'est aussi, je le rappelle, la langue de la revendication ouvrière à Marseille jusqu'à la guerre de 14. Quand on lit, il y a des ouvrages, il y a des journaux écrits en marseillais, des journaux d'extrême gauche. Alors c'est une extrême gauche plutôt anarchisante, c'est vrai, pas marxiste, mais et un peu populiste, comme on dirait aujourd'hui. Mais il n'empêche que c'est très lié au monde ouvrier, au monde ouvrier.
C'est très bien. Jean-Pierre, il nous reste plus beaucoup de temps pour finir l'émission. Malheureusement, les émissions sont très courtes, mais on pourra en refaire une. Je suis sûre que nos auditeurs sont tout contents. Simplement, est-ce que tu peux répondre très rapidement à ma question sur la Catalogne, sur le pays catalan, très rapidement? Et puis, je voudrais dire à nos auditeurs que Jean-Pierre a très envie de faire une autre émission sur la Catalogne, à proprement parler. Et donc, on va se retrouver, on va se revoir, on va le réécouter à nouveau.
Alors, je me souviens plus exactement quel était le thème de la question sur la Catalogne. J'ai répondu un peu déjà, il me semble.
Est-ce que les territoires et les cultures, etc., des pays catalans respectifs, catalans et occitans, se recoupent ou pas? Où sont les limites entre les deux? Quelle est la différence de degré entre les deux?
Alors, au niveau linguistique, bon, au niveau linguistique, il y a les linguistes établissent une frontière, bien entendu. Bon, on peut dire que ce que autour de Perpignan, c'est du catalan pur entre guillemets. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, il est lui aussi dialectalisé comme toute langue. Et puis que autour de Sigean et Narbonne, c'est du languedocien, donc de l'occitan pur entre guillemets. Mais entre les deux, vous avez un petit territoire qui s'appelle les Fenouillèdes, Saint-Paul de Fenouillèdes. Et tout ça, qui parle, on dirait une ovarège, c'est-à-dire un mélange de d'occitan et de catalan. Les langues sont rarement, sauf quand elles sont de groupes très différents, bien sûr, entre le basque et l'occitan, la limite paraît certaine, et elle coupe des fois les villages. Il y a des villages où il y a une partie du village qui est bascophone, l'autre qui est occitanophone, encore que dans ces villages, on voit bien que des mots occitans passent dans le basque et l'inverse, bien sûr. Les limites linguistiques, surtout dans le même domaine, on est dans le domaine latin, sont rarement si nettes que l'on croit. Entre la langue d'Oïl et la langue d'Oc, il y a une vaste zone dans le nord de la Creuse, de la Haute-Vienne et le sud de l'Allier, où, grosso modo, les langues sont un peu inextricables. Et d'ailleurs, incompréhensibles à la fois pour les gens qui parlent Berrichon au nord, que pour les gens qui parlent auvergnat ou limousin au sud. C'est quasiment, avec ce mélange, on crée carrément une espèce d'interlangue spécifique. Alors, moi, la grosse différence, je pense que je l'ai exprimé, c'est que la différence, elle n'est pas tant linguistique que sociologique. La revendication catalane a été prise en charge par la bourgeoisie. On sait très bien que quand la bourgeoisie prend en charge une revendication de type linguistique, cela débouche sur la demande de création d'un État. C'est ce qui se passe actuellement en Catalogne. D'accord ? Catalogne Sud. Le Nord, c'est un peu ambigu, parce que le Nord, il a tellement vécu depuis le traité des Pyrénées sous l'influence du centralisme parisien que sociologiquement il est plus proche de la situation de l'Occitan, et que la petite bourgeoisie perpignanaise, je veux dire, elle hésite. Il y a une partie de la bourgeoisie perpignanaise qui suit effectivement la revendication nationale et nationaliste entre guillemets de la Catalogne Sud. À ce propos, je tiens quand même à faire une spécificité entre le nationalisme des empires, des États constitués, et le nationalisme des nations opprimées. On ne peut pas mettre sur le même plan le nationalisme de Madrid, qui est la défense d'acquis historiques, y compris d'acquis territoriaux, et puis le nationalisme catalan, qui est la défense en vue de la sauvegarde d'une identité et d'une spécificité et d'une histoire qui est menacée à terme de mourir. On emploie en français le même terme. C'est très dommage. Moi, je préférerais parler dans un cas d'impérialisme de Madrid sur les minorités qui existent en Espagne, et puis de nationalisme, si l'on veut, puisque c'est la bourgeoisie qui le prend en charge, de nationalisme catalan ou basque.
Merci Jean-Pierre. Alors, écoute, c'était très intéressant, vraiment, bravo. C'était, c'est dommage, il aurait fallu 3 heures d'émission, mais on va en refaire d'autres. Alors, on va passer une autre chanson que tu avais souhaité, un autre groupe de musique qui est très représentatif de la culture occitane et qui est actuel, qui est Massilia Sound System. Massilia Sound System, c'est un groupe qui est très connu, notamment à Marseille, mais dans la France entière. Comme il est très très connu, il est dans la mouvance de Zebda et de tous ces nouveaux groupes qui sont sorti dans les années 2000, au début des années 2000. Massilia Sound System était quand même l'ancêtre, hein. Il était beaucoup plus ancien. Massilia Sound System, c'est l'ancêtre de tous ces groupes qui ont éclos dans les années 2000, au début. Mais il est resté célèbre et il l'est encore. Pourquoi ? Parce qu'il fait la promotion de la culture occitane. Il chante tantôt en français, tantôt en occitan. La vie d'un quidam en pays occitan et en Provence. Massilia Sound System, tu voulais dire quelque chose ?
Moi, je dis rapidement, Massilia Sound System, c'est surtout le symbole de la jonction des langues opprimées et des populations qui ont été aliénées ou que l'on tente d'aliéner, parce que Massilia Sound System chante également en arabe, en berbère. C'est la même chose pour les Fabulous Troubadours qui, eux, ajoutent le portugais du Brésil.
Merci Jean-Pierre pour tous ces renseignements. Merci beaucoup. Parle à pas toi de Massilia Sound System. Chers auditeurs, chères auditrices, bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.
Escutami bem, escutami raga. A alves pra pejari que vem te favorega. Escutami plan, escutami bem, escutami raga. A alves musite que vem per te favorega.
Vai de la danza.
Vai de la danza, raga.
Vai de la danza.
Oh, bem.
Vai de la danza.
Ursula, qui te sedi smassilia.
Vai de la danza.
Vai de la danza. Escutami bem, escutami
bem, escutami raga. A Paris, la Iberia de Bordeaux. Escutero mon lirica, couvain, gai, gouvain, du tout. Mais qui parles pas français, parles pas espagnol, parles pas inglés, parles pas italien. Se rigau, bate explicar pra que espapau.
Subeu, sugau, porque seu provençal.
Esta pijari que te fama, te alugou, meu Deus.
Subeu, sugau, porque seu provençal.
Musite que vem pra fama, te alugou.
Mas escuta-me pra mim, escuta-me bem, escuta-me vaga. Alves pra pijari que vem te fabulega. Escuta-me pra mim, escuta-me bem, escuta-me vaga. Alves, musite que vem pra te fabulega.
Mas de la dança,
olha na dança,
raga. Mas de la dança,
oh, bem.
Mas de la dança,
Ursula, que te se desmacilha. Parlo pas toi, raga, ouais, parlo pas toi. Parlo pas toi, pour mes états, restez pas. Non, parlo pas toi, raga, ouais, parlo pas toi. Parlo pas toi, que Babylone n'entendra pas. Dédi Marcia,
parlo pas toi.
Et pour Toulouse,
parlo pas toi.
Ouais, dédi Salémantier,
parlo pas toi.
Et même à Paris, raga, tu fais, parlo pas toi. Parlo pas toi, raga, ouais, parlo pas toi. Parlo pas toi, pour mes états, restez pas. Non, parlo pas toi, raga, ouais, parlo pas toi. Parle pas toi que Babylone n'entendra pas.
Que
dis la danse.
Parle pas toi.
Et per carrière.
Parle pas toi.
Et l'amour à gars.
Parle pas toi.
Et il la fila dans ta main.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle émission de Mets de Résistance, Radio Galère 88.4, Radio Mono Chalon Champagne, sur un sujet qui intéresse beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens connaissent le fameux groupe Massilia Sound System, que ce soit dans la Marne, là je pense aux gens qui écoutent le 90.6 Radio Mono, ou ceux qui écoutent le 88.4 Radio Galère à Marseille, sur laquelle mon émission Mets de Résistance passe. Mais tout le monde, même si les Marseillais en sont plus proches, tout le monde connaît Massilia Sound System. Et Massilia Sound System fait la promotion d'une culture qui est très intéressante, qui est la culture occitane. Et donc, derrière cette promotion de la culture occitane, il y a toute une revendication qui est très française de reconnaissance d'autres cultures, parce que c'est le sujet de notre émission. La France n'a pas toujours été un pays qui ne parlait qu'une seule langue. Il y a toujours eu des patois. J'ai choisi donc aujourd'hui de faire cette émission avec un invité qui s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre est né à Paris, mais il se sent occitan et il va vous expliquer pourquoi. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour. Alors, je suis né en banlieue parisienne exactement, mais mes deux parents étaient d'origine occitane et j'ai été élevé dans ma petite enfance, c'est-à-dire, je crois, les moments les plus importants dans la vie d'un homme au niveau de l'apprentissage de linguistique. J'ai été élevé donc par ma grand-mère, elle était seule, veuve de guerre.